Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Camille Grosdidier pour un bulletin d'information. De violents incidents samedi entre des soldats français de la force Sangaris et des rebelles musulmans de la Séléka à Bambari au nord-ouest. Au nord-est de Bangui, la capitale, ont déclaré Reuters et l'agence France-Presse qui cite l'état-major des armées. Les soldats français déployés à Bambari, qui est situé à environ 300 km de Bangui, ont été pris pour cible dans la matinée par une vingtaine d'hommes, a dit à Reuters le colonel Gilles Jaron, porte-parole des armées françaises. Ils ont répliqué et très probablement fait des blessés parmi les rebelles. Il n'y a pas eu de blessés chez les militaires français. Le gouvernement du Mali et les groupes Touareg séparatistes ont conclu un accord de cessez-le-feu suite aux affrontements qui menaçaient cette semaine de replonger le Mali dans la guerre civile. L'accord a été conclu vendredi au terme d'une réunion entre les rebelles, l'Union africaine et un haut responsable des Nations unies dans le nord du Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a salué le rôle joué par son homologue mauritanien qui a facilité le pacte en tant que président de l'UA. Une vingtaine de morts samedi à Mogadiscio, des hommes armés ayant pris d'assaut le Parlement dans la capitale somalienne. L'attaque, qui a été revendiquée par la milice des Chebab, a été menée par des kamikazes qui ont également fait sauter une voiture piégée. 4 législateurs ont été blessés. Les États-Unis et les Nations unies ont fermement dénoncé l'attentat. La présidente Joyce Banda du Malawi a annoncé l'annulation des élections générales de cette semaine en raison de graves irrégularités, mais des responsables électoraux de son pays ont immédiatement contesté sa décision. Une minute de sport avec d'abord le championnat nord-américain de basketball, la NBA. Et bien, selon les médias américains, le propriétaire des Los Angeles Clippers, Donald Sterling, suspendu à vie par la NBA pour avoir tenu des propos racistes, a autorisé son épouse Shelly à vendre sa franchise. Quant aux demi-finales de la NBA, eh bien, après 2 jours de repos, le match 3 de la finale de la conférence Est entre le Miami Heat et les Pacers d'Indiana est prévu ce soir. Formule 1, c'est l'Allemand Nico Rosberg de Mercedes qui partira en pole position dimanche 25 mai du Grand Prix de Monaco, 6e manche de la saison 2014 du championnat du monde de Formule 1, à côté de son coéquipier britannique Lewis Hamilton. Le pape François a plaidé samedi pour la fin urgente de la guerre civile en Syrie. À son arrivée en Jordanie pour une visite de 3 jours au Moyen-Orient, le souverain pontife a appelé les parties au conflit à rechercher une solution pacifique à la crise en Syrie et à une solution juste au conflit israélo-palestinien. Le pape a eu des entretiens avec le roi Abdallah de Jordanie avant de célébrer une messe dans un stade d'Amman. Le président américain Barack Obama, qui est confronté à un scandale au ministère des anciens combattants, a rappelé samedi que les États-Unis ont une mission sacrée de prendre soin de leurs anciens combattants. Il s'exprimait alors que le pays s'apprête à célébrer lundi le Memorial Day, la journée du souvenir, fête nationale qui est l'occasion pour les Américains d'honorer ceux qui sont morts pour la patrie. La junte militaire au pouvoir en Thaïlande a dissous samedi le Sénat et a annoncé qu'elle assume désormais le pouvoir législatif. Toute loi ayant besoin d'être approuvée par le Parlement ou le Sénat le sera désormais par le chef de la junte, le général Prayut Chan-o-cha, selon un communiqué lu à la télévision. Vendredi, le général avait déjà assumé les fonctions de Premier ministre. Et à la veille d'une élection présidentielle cruciale, le Premier ministre par intérim de l'Ukraine s'est adressé au pays samedi. Arseniy Yatsenyuk a insisté sur le fait que les Ukrainiens ne doivent pas permettre, et je cite, à des bandits parrainés par l'étranger de perturber les élections, et il a appelé tous les citoyens ukrainiens à voter.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
le magazine féminin de la Voix de l'Amérique.
Bonjour Nathalie Barge pour le magazine Au Féminin avec une invitée en ligne, Cécile Pouilly, une porte-parole du Haut Commissariat des Droits de l'Homme. Alors c'est pour parler de ce problème des personnes atteintes d'albinisme, elles sont encore victimes de violences, elles sont encore victimes de meurtres, de barbarie. Navi Pillay a alerté le gouvernement tanzanien entre autres au sujet d'un cas dernièrement d'une dame de 40 ans qui a été assassinée sauvagement en Tanzanie, c'était le 12 mai, n'est-ce pas?
Et en effet, une victime encore de ces crimes atroces contre les personnes qui sont atteintes d'albinisme, dont cette personne était dans sa maison, dans son village situé au nord-ouest de la Tanzanie, lorsque ses assaillants l'ont attaquée et l'ont brutalement agressée. Les villageois qui étaient à proximité ont entendu ces cris et malheureusement, ce meurtre atroce vraiment illustre la situation très difficile des personnes atteintes d'albinisme en Tanzanie, mais également dans d'autres pays.
Et personne n'est venu la défendre, donc?
En effet, il semble qu'il n'y ait pas eu d'intervention pour la sauver. Toutefois, la police est intervenue dès le lendemain et a arrêté deux personnes. Et c'est essentiel parce que la lutte contre l'impunité est un élément, est une composante majeure pour prévenir ces crimes qui sont toujours perpétrés contre cette communauté qui est extrêmement vulnérable.
Alors, on précise quand même, même si peut-être il y en a moins que par rapport à une vingtaine d'années en arrière, on précise quand même que il y en a des dizaines qui ont été tués en Tanzanie depuis à peu près les années 2000, donc c'est quand même énorme. C'est pas le seul pays, il y en a également qui ont été tués au Burundi dans la région. Pour revenir sur la Tanzanie, dans votre communiqué, vous parlez de 13 centres de réfugiés, notamment qui hébergent des centaines de personnes atteintes d'albinisme en Tanzanie, et donc vous parlez des conditions assez déplorables de ces personnes, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Alors, c'est un autre sujet de préoccupation pour nous. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants qui sont atteints d'albinisme sont soit abandonnés par leur famille, soit fuient leur village par crainte des attaques et se trouvent dans ces centres qui sont initialement prévus pour des enfants déplacés ou des adultes qui ont des besoins un peu spécifiques. Et malheureusement, la situation dans ces centres est absolument lamentable. Ils sont surpeuplés, les conditions d'hygiène sont mauvaises et on sait que beaucoup des enfants atteints d'albinisme qui vivent dans ces centres, malheureusement, souffrent de cancer de la peau, souvent dès l'âge même tout petit, dès l'âge de 3 ans pour certains, en partie parce que le personnel qui s'occupe d'eux ne connaît pas les gestes simples à adopter pour empêcher cette maladie. Par exemple, leur mettre de la crème solaire ou leur donner des chapeaux. De plus, il y a aussi des cas d'abus sexuels qui ont été rapportés dans ces centres. Et en plus, les enfants sont beaucoup laissés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matériel scolaire suffisant disponible, quasiment aucun matériel, donc pour leur permettre de se préparer un avenir.
Alors, pour revenir sur le cas de cette dame, Mungu Lugata, donc, qui a été assassinée à Mwashalala, dans la région de Simiyu, donc le 12 mai dernier, est-ce que vous allez demander finalement au gouvernement qu'une enquête sérieuse soit faite? Je pose cette question parce que je sais que c'est pris au sérieux dans certains pays, mais finalement, vous dénoncez aussi une certaine impunité.
Tout à fait. Donc nous avons appelé directement le gouvernement tanzanien à remplir ses obligations, à savoir enquêter et poursuivre les responsables de ces crimes atroces. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui sont atteintes d'albinisme n'arrivent pas à faire valoir leurs droits parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire, elles n'ont pas le soutien nécessaire pour le faire et il incombe à l'État tanzanien de remédier à ce problème. D'abord en leur permettant donc à ces personnes victimes un recours effectif à la justice, des réparations, une réhabilitation. Il faut leur offrir des soins psychologiques, médicaux. Nous avons nous-mêmes un fonds qui débloque donc des financements pour venir en aide à certaines de ces personnes parce que, comme vous le savez, certaines survivent à ces attaques extrêmement brutales, mais elles doivent vivre avec des membres amputés. Donc, on essaye de les aider à obtenir des prothèses. Ils ont vraiment des besoins très, très larges, ces gens qui sont atteints d'albinisme parce qu'ils souffrent de discrimination, de stigmates au sein de la société. Il faut donc aussi que le gouvernement tanzanien se mobilise activement, sans plus tarder, pour mener des campagnes éducatives et de sensibilisation auprès du public, pour qu'enfin les gens cessent de penser que les personnes atteintes d'albinisme sont des fantômes et enfin comprennent que ce sont des êtres humains avec des droits comme tout un chacun.
Alors, vous citez notamment dans votre communiqué qu'il y aurait au moins dans le monde, au moins 15 pays dans lesquels, finalement, on s'attaque aux personnes atteintes d'albinisme. Vraiment, dans certains coins d'Afrique ou ailleurs, les enfants sont vraiment en danger, les parents les cachent, etc. Est-ce qu'il existe des structures spéciales pour leur protection, hein? Et certains, il faut le dire, ont presque carrément besoin, dans l'attente, hein, d'arriver à sensibiliser les gens, de garde du corps, hein?
Absolument, ils sont vraiment dans une menace quasi quotidienne et comme vous l'avez dit, nous avons recensé au moins 200 cas d'attaque dans 15 pays depuis 2000. Et donc malheureusement, non, ces gens ne sont pas pris en compte suffisamment par les gouvernements concernés. Beaucoup, s'ils ne sont pas attaqués directement, en tout cas, ne vivent pas dans des conditions propices à leur développement ou à leur bien-être. Certains ne vont pas à l'école par crainte de ces attaques. Certains sont abandonnés par leur famille. Les mamans d'enfants qui sont atteints d'albinisme sont parfois répudiées par leurs conjoints. Donc on voit qu'il y a vraiment de nombreuses mesures à prendre. On parlait auparavant de problèmes de santé. Beaucoup de ces personnes atteintes d'albinisme meurent à un âge précoce en raison de cancer de la peau, alors qu'il y a des solutions simples à apporter. Une protection solaire, des chapeaux, couvrir leur peau, mais il y a toute une méconnaissance. C'est pour ça que nous enjoignons vraiment les autorités de ces pays qui accueillent des populations de personnes atteintes d'albinisme à prendre des actions très concrètes pour les protéger.
Je reviens sur l'impunité. Hein. C'est la question la plus importante. Ces marabouts, là, ces personnes qui sont les commanditaires, hein, qui arrivent encore à faire croire des choses absolument inouïes aux gens et à les emmener à accepter ce type de barbarie. Parce qu'on n'a jamais entendu parler de la condamnation d'un de ces marabouts pour crime absolument, absolument atroce.
Alors vous avez raison, il y a vraiment une absence de justice pour l'essentiel de ces attaques. C'est la raison pour laquelle nous lançons ces appels publics pour faire connaître le problème, pour obtenir une action des autorités en Tanzanie et ailleurs. Parfois, les coupables sont arrêtés, pour autant, peu finissent en prison. Et à moins qu'il y ait vraiment une action très concrète pour apporter la justice à ces victimes, à leurs familles, qui s'y survivent aux crimes sont extrêmement traumatisés. Parfois des enfants de quelques mois se voient mutilés alors qu'ils sont même en vie. Sans une action très ferme, et bien malheureusement ces crimes atroces et barbares vont continuer. Donc voilà, nous essayons vraiment de sensibiliser à ce problème en espérant que ça va permettre d'activer ces gouvernements pour que des mesures extrêmement concrètes soient prises et que les responsables de ces crimes odieux soient punis.
Alors, la responsabilité des politiciens dans l'affaire, parce que l'on a connu différents cas, notamment au Nigeria, dans d'autres pays, hein, même en Afrique centrale, l'on sait que les personnes atteintes d'albinisme sont en danger aux périodes des campagnes électorales. Donc, vous voyez ce que je veux dire, la responsabilité des politiciens. Est-ce que eux-mêmes ne sont pas amenés finalement à un moment donné à prononcer des discours pour condamner cela?
Mais il faut absolument que les classes politiques des pays concernés se mobilisent parce que les personnes atteintes d'albinisme sont des citoyens à part entière. C'est vrai, vous avez fait état d'une crainte de recrudescence d'attaques au moment des élections et les personnes atteintes d'albinisme le savent puisque souvent elles prennent des mesures de précaution supplémentaires et sont dans une crainte toute particulière avant ces élections. Donc bien sûr que la classe politique est impliquée, c'est aussi cette classe politique qui fait des lois, qui prend des mesures, qui débloque des fonds et il faut donc que cette classe politique dans ces différents pays intervienne de manière très ferme pour mettre fin à ces exactions et envoyer aussi un message à toute la population que ces pratiques sont inacceptables et qu'elles doivent cesser.
Merci beaucoup Cécile Pouilly, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme. À très bientôt, au revoir.
Je vous remercie, au revoir.
Entre parenthèses.
Émouvant témoignage récemment au Congrès américain d'une adolescente nigériane ayant survécu à un massacre perpétré par Boko Haram. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Le démocrate de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Elliot Engel, a présenté à la presse Deborah Peter, unique survivante d'une attaque de Boko Haram contre son village. Je voudrais que vous saisissiez cette opportunité pour remercier Deborah d'être venue ici et d'être avec nous. Vous allez voir, quand elle parlera, quelle excellente jeune fille elle est. Une jeune fille qui ferait la fierté de n'importe quel parent, a dit Elliot Engel, ajoutant que la présence de l'adolescente met en lumière les choses horribles qui se déroulent au Nigeria. Deborah Peter a raconté comment son père, un pasteur, a été pris pour cible par Boko Haram à Chibok, la localité où les insurgés nigérians ont enlevé des lycéennes en avril. Selon son témoignage, Troy était venu voir son père pour lui demander de renoncer à sa foi chrétienne. Et lorsqu'il a refusé, il a été battu sous les yeux alors qu'elle avait 12 ans et son frère 15 ans. Ils ont ensuite battu le garçon, abandonnant les deux corps sur place. Maintenant, âgée de 15 ans, Deborah Peter est venue aux États-Unis grâce à une association chrétienne et va à l'école dans l'État de Virginie. Elle a adressé un message au gouvernement nigérien.
I want them to, like, maybe send armies to find...
Je voudrais qu'ils envoient peut-être l'armée pour retrouver les filles et peut-être aider celles qui ont perdu leurs parents à venir à l'école ici. Pendant que le monde débat ce qu'il faut faire au sujet des filles kidnappées, un plus grand nombre est enlevé et des gens en danger de mort, a souligné par la suite le président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Ed Royce, lors d'une audition sur Boko Haram.
The difficulty is that Boko Haram is in a process.
La difficulté est que Boko Haram est dans le processus d'expansion de son territoire et il y a une fréquence de ses attaques contre les filles. C'est une évolution. Je veux dire qu'ils ont intimidé et effrayé des militaires nigérians et ils sont maintenant à un point où de nombreuses unités militaires ont fui. Boko Haram a incendié 500 écoles au Nigeria et ce sont des circonstances extraordinaires, a déclaré le député Ed Royce en appelant les États-Unis à aider les forces nigérianes.
Parole de femme.
Vous écoutez le magazine au féminin avec Nathalie Barge, avec une invitée en ligne, Sophie Crozet, formatrice et conseillère juridique au Centre de surveillance des déplacements internes, qui est une entité du Conseil norvégien pour les réfugiés. Vous avez fait des recherches et puis constaté qu'environ 70% des personnes déplacées internes en temps de crise dans le monde sont des femmes et des enfants, ce qui ne nous étonne pas beaucoup du reste. Mais vous mettez l'accent sur le fait que finalement ce sont les jeunes filles, les filles qui sont les plus vulnérables d'une manière générale dans ce type de situation. Pourriez-vous nous dire un petit peu globalement ce que vous avez constaté ?
Alors oui, en effet, dans les 50 pays dont nous faisons la surveillance, la majorité des déplacés internes sont des femmes et des enfants. Ce sont malheureusement des pays où les femmes et les enfants font l'objet de discrimination et peinent à avoir accès donc aux services de base et à leurs droits fondamentaux en temps normal. Le déplacement interne lié au conflit, lié aux violations des droits de l'homme, exacerbe cette situation et les rend encore plus vulnérables aux discriminations et aux violences. Les jeunes filles sont d'autant plus vulnérables et à risque d'être victimes de violences, par exemple d'abus ou de trafic. Et l'absence d'intimité, l'absence d'endroits ou de zones sécurisées pour les femmes et les jeunes filles contribue à exacerber ces problèmes.
Alors vous mettez l'accent en particulier sur 5 pays, donc l'Afghanistan, Colombie, territoire palestinien, République démocratique du Congo et Centrafrique. Pourrait-on commencer par la Centrafrique justement ?
Oui, tout à fait. Mais la Centrafrique qui est actuellement en pleine situation d'urgence, il faut savoir que 20% de la population de la Centrafrique a été déplacée depuis le début de cette nouvelle crise fin de l'année 2013 et qu'actuellement 70% des élèves en Centrafrique sont déscolarisés. Donc on note une interruption brutale de la scolarisation pour les enfants, ce qui est d'autant plus dommageable pour les jeunes filles qui ont d'ores et déjà beaucoup de problèmes pour avoir accès à l'éducation en République centrafricaine, il faut savoir qu'il n'y a que 58% des jeunes femmes centrafricaines qui sont alphabétisées, et le déplacement, la fermeture des écoles et l'insécurité généralisée qui empêche les élèves d'aller à l'école va avoir un impact très très important pour la scolarisation des jeunes filles. Il faut aussi savoir que le fait qu'en plus elles ne puissent pas aller à l'école et elles vont être automatiquement plus confinées chez elles et être l'objet de discrimination et sont encore plus à risque d'être mariées ou de tomber enceinte plus jeune.
Ce qui nous amène tout droit en RDC, hein, notamment dans l'est de la RDC. Vous avez des recommandations, notamment en ce qui concerne comment gérer ces situations de crise et surtout comment protéger les jeunes filles dans des situations de déplacement et notamment la protection des enfants non accompagnés, parce que finalement, ce sont les plus vulnérables.
Tout à fait. Les enfants non accompagnés et les enfants séparés sont les plus vulnérables. On sait que le déplacement contribue à séparer les familles et qu'il y a de nombreux enfants qui se retrouvent seuls ou non accompagnés par leur famille. Et ce sont les plus vulnérables, notamment vulnérables aux enrôlements forcés par les groupes armés, qui est malheureusement le cas en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, il y a plus d'1,5 million d'enfants qui ont été déplacés et ces enfants sont souvent à la merci de ces groupes armés. C'est pour ça que nous recommandons la mise en place le plus vite possible d'éducation dans l'urgence, de programmes d'éducation dans l'urgence, pour qui constitue notamment l'opportunité pour les enfants de pouvoir poursuivre un cursus normal, ce qui est important pour les jeunes filles, mais aussi d'être protégées contre les enrôlements forcés. L'école constitue un outil de protection importante. Ça occupe les enfants et les enfants sont sous la surveillance d'une équipe éducative pendant la journée. C'est très très important. Vous voyez les résultats d'une étude qui a été menée donc par notre maison mère, le Conseil norvégien pour les réfugiés, auprès des déplacés internes dans le Nord Kivu, qui a conclu que 30% des familles mettaient en premier l'éducation et prioritisaient l'éducation par rapport à la fourniture de nourriture.
Et il y a un cas en particulier qui nous inquiète, c'est la Syrie. La Syrie, 6 millions de personnes déplacées internes et en majorité des enfants. Est-ce que vous avez des études là-dessus, justement, sur la situation des enfants et surtout des jeunes filles?
Alors, nous n'avons pas fait d'études spécifiques sur la situation des jeunes filles en Syrie parce que l'accès est relativement difficile pour nous qui travaillons sur la situation des déplacés internes et pas des réfugiés. Par contre, il y a un rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants en Syrie et notamment des enfants réfugiés qui est alarmant. On voit les mêmes problèmes, les problèmes d'accès à l'éducation, les problèmes de nutrition. Ce qui concerne les jeunes filles, des problèmes de mariage forcé et de mariage précoce. La situation des mariages forcés et des mariages précoces dont nous parlons aussi dans notre rapport avec deux cas en Afghanistan est un problème qui était exacerbé au moment du déplacement. Mais ce n'est pas uniquement en Afghanistan et nous savons que ce genre de cas arrive, notamment en Syrie mais aussi en République démocratique du Congo.
Alors, dans vos recommandations, également, vous parlez d'un problème qui est récurrent, c'est les forces de sécurité, parce que dans des situations de déplacement, il est important aussi de former, finalement, les forces de police.
Tout à fait, les forces de police et les forces de sécurité sont informées et donc on recommande des formations sur la question du genre et sur les principaux risques auxquels les filles font face au moment de déplacement, notamment les abus sexuels, notamment le trafic et notamment les mariages forcés. La formation et la sensibilisation des forces de police est très très importante. On sait aussi que les forces de police, que les forces armées, que les forces de sécurité se rendent souvent coupables d'abus, notamment dans les situations de chaos et de déplacement. Donc il est très très important, notamment de lutter contre l'impunité des forces de sécurité. La sensibilisation aux problèmes de genre et à l'impact du déplacement sur les jeunes filles est très très importante. Tous les acteurs humanitaires et de développement, les autorités, les personnes qui ont affaire avec ces jeunes filles déplacées doivent être formées et sensibilisées à ces questions-là. Et j'insiste insisterai aussi sur l'importance de former les équipes éducatives qui doivent être informées des problèmes auxquels les jeunes filles font face pour avoir accès à l'éducation. On sait que même en temps normal, dans de nombreux pays, il est difficile pour les jeunes filles d'avoir accès à l'éducation. Dans les situations de déplacement interne, de conflits, de violations des droits de l'homme, c'est encore plus difficile. Donc il est très très important d'identifier quels sont ces blocages, d'en discuter, d'impliquer les femmes, d'impliquer les leaders religieux, d'impliquer les leaders culturels et d'essayer de pousser à la scolarisation des jeunes filles, même en période d'urgence.
Vous mettez l'accent également sur la confidentialité des jeunes filles qui sont des adolescentes, l'accent sur le fait qu'il faudrait, dans des situations comme ça, plus de femmes médecins, de femmes assistantes sociales, etc.
Oui, l'accès aux services médicaux de base et de conseils médicaux et psychosociaux, notamment sur les questions de reproduction, c'est très important et notamment au moment de l'urgence. On n'y pense pas spécialement, mais l'accès à des personnels soignants féminins et à des conseils psychosociaux sont très importants. On sait que 70 000 jeunes filles meurent chaque année du fait de grossesses précoces. Donc il est très très important d'avoir accès c'est un personnel soignant qui connaisse la situation et sensibiliser un personnel soignant féminin pour que les jeunes filles soient prises en charge dès le début de l'urgence.
Donc le soutien psychologique, il est extrêmement important parce que il faut le rappeler quand même, dans une situation telle qu'une situation de guerre, alors on a des bombardements, on a des groupes armés qui attaquent notre école, du jour au lendemain, on doit quitter sa maison à toute vitesse pour ne plus jamais y revenir, et on subit certains abus, et les jeunes filles, là, les enfants, d'une manière générale, eh ben, on peut le dire, ils sont traumatisés.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a voulu montrer à travers de cet article par le cas sur la situation à Gaza, dans les territoires palestiniens, où on montre à la suite d'une étude, les parents avaient déclaré 90% des filles avaient subi des traumatismes qui avaient eu une incidence sur leur scolarité. Et on montre donc la situation de cette jeune fille, Saïda, qui a vécu des traumatismes liés donc aux opérations israéliennes sur Gaza et dont les résultats scolaires ont subi des conséquences. Elle a dû changer 3 fois d'école en l'espace de 2 ans. Et sa situation s'est améliorée à partir du moment où elle et sa famille ont pu avoir accès à un centre dédié aux enfants et aux familles dans lequel elle a pu échanger, exprimer ses frustrations et ce traumatisme. Depuis qu'elle a pu avoir accès à ces services-là, il semblerait que ses résultats scolaires se soient améliorés et qu'elle ait pu rebondir et retrouver une enfance normale. Donc l'impact des conflits sur les enfants et en particulier les jeunes filles est important. Il est très très important d'en prendre conscience et de réserver des zones, des endroits où les enfants, où les jeunes filles puissent se retrouver, des endroits sécurisés. C'est aussi le cas en Colombie où on a montré que cette jeune fille qui était déplacée à plusieurs reprises et dont la famille a dû se déplacer une autre fois après que cette jeune fille ait été témoin de violences sexuelles perpétrées sur une de ses amies au retour de l'école. Donc après cet événement, elle a dû renoncer à aller à l'école pour des questions de protection et sa famille a décidé de changer de quartier et d'aller dans un autre endroit pour qu'elle puisse ensuite avoir accès à l'école.
À ce propos, est-ce que vous pouvez nous citer certains types d'actions effectuées par le Conseil norvégien pour les réfugiés avec ses partenaires sur le terrain, notamment en RDC et en République centrafricaine pour la protection des jeunes filles?
Alors, dans ce rapport, on fait spécifiquement référence aux programmes d'éducation dans l'urgence qui ont été mis en place en République démocratique du Congo et notamment dans le Nord Kivu, avec 13 écoles dans les camps de déplacés internes et aux abords des camps de déplacés internes qui offrent donc un accès à l'école à plus de 7000 enfants et ce qui constitue vraiment une amélioration considérable de la vie et de la protection des jeunes filles. Et on parle également de la situation donc en Colombie où donc le Conseil norvégien pour les réfugiés a réhabilité des écoles et formé les professeurs aux problèmes spécifiques des jeunes filles déplacées et des enfants déplacés. En République centrafricaine, le Conseil norvégien pour les réfugiés est en train d'ouvrir un nouveau bureau. Nous espérons que des programmes d'éducation en urgence seront développés sur le modèle de ce qui a été fait en République démocratique du Congo.
Merci Sophie Crozet. Je rappelle que vous êtes conseillère juridique au Conseil norvégien pour les réfugiés. Au revoir, à très bientôt.
Ah. arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. Your eyes.
Kaoleza. Kaoleza is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa.